Ça a commencé? L'émission a commencé?
Debout!
Énorme! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Campus Tour, il est 7h17 et comme chaque vendredi, c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes le vendredi 24 octobre et on vous accompagne pendant 50 minutes d'émission pour bien commencer la journée. Au programme ce matin, Lise reviendra sur les prémices du mouvement Octobre Rose, le mois de sensibilisation pour le cancer du sein. Youn nous parlera de la victoire du Maroc lors de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations de Football, une victoire aussi historique que symbolique. Côté culture, Alia nous parlera avec une pointe de nostalgie de la fin de la chaîne MTV. Jules Frécon lui était ce lundi au bord du terrain de l'EPJTFC en immersion dans le pôle ultra de l'école. Et enfin, Angelina, qui part bientôt en alternance, abordera cette double vie pour elle et des millions d'étudiants et étudiantes. Ce sera à retrouver vers 8h. Mais tout de suite, place au Flash Info. Bonjour Ludivine.
Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité cette semaine. Ce matin, 26 départements sont en vigilance pluie, inondation, crue ou les deux à cause de la tempête Benjamin. Elle a frappé hier partout en France, faisant un mort et plusieurs blessés. Avec des rafales enregistrées à plus de 160 km/h, la majorité du pays a subi un violent coup de vent, avec notamment une mer déchaînée sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche. Un touriste allemand de 45 ans est mort en Corse, emporté par une crue. 6 autres personnes ont été blessées plus légèrement. Jusqu'à 140 000 foyers ont été coupés de l'électricité, en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Le dernier jour d'audience ouvre ce vendredi au procès du meurtre de Lola, violée et tuée il y a 3 ans. Hier, les avocats des parties civiles ont retracé le calvaire de la collégienne. L'accusée Dabia Benkired reconnaît presque tous les faits, sauf les pénétrations qu'elle persiste à nier malgré les expertises. L'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises de Paris rendra son verdict dans la journée. L'Assemblée intègre le consentement à la définition pénale du viol. Hier, la proposition de loi partisane introduisant la notion de consentement aux définitions du viol et de l'agression sexuelle a été adoptée à une large majorité, 155 voix pour, 31 contre. La co-rapporteure du texte, la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, s'est exprimée. Nous souhaitons que les victimes puissent reprendre confiance en la justice et que cette loi embarque la société tout entière vers la culture du consentement. La définition de loi doit être approuvée définitivement le 29 octobre. J.D. Vance a assuré hier soir que Israël ne va pas annexer la Cisjordanie, une déclaration alors que le Parlement israélien a approuvé en lecture préliminaire des projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne sur ces territoires palestiniens occupés. Israël perdrait tout le soutien des États-Unis si cela se produisait, avait déclaré le président américain Donald Trump un peu plus tôt dans une interview au Time Magazine.
C'était le Flash Info présenté par Ludivine Meyer. On se retrouve dans 20 minutes pour un nouveau point info. Il est 7h20 et vous écoutez Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. La défiscalisation des pensions alimentaires passe un premier cap. L'amendement présenté par les députés socialistes a été adopté lundi, lors de l'examen du budget 2026. Angelina Richard, cette mesure a pour objectif de rétablir une égalité fiscale entre les pères et les mères isolés.
Sera-t-elle la dernière tentative législative ? C'est pourtant la 8e fois que les députés tentent de la faire passer. Alors le but est simple, rétablir une équité fiscale entre les parents séparés, car aujourd'hui, le système est inégalitaire. Le parent qui verse la pension alimentaire, le plus souvent le père, bénéficie d'un avantage fiscal. Il peut déduire cette somme de ses impôts. D'ailleurs, selon le Haut Conseil de la Famille, dans 97% des cas, c'est bien le père qui en profite. Pendant ce temps-là, le parent qui garde l'enfant, généralement la mère, doit lui ajouter cette pension à son revenu imposable, autrement dit payer plus d'impôts à cause de l'argent que ce parent reçoit pour leur enfant. L'abondement présentée vise justement à mettre fin à ce système, financé par une hausse de la taxe sur le tabac. Elle serait limitée à 4 000 euros par an et par enfant. Pour l'instant, c'est juste une étape, ça ne change pas encore le contenu du projet de loi finance, mais ça laisse entrevoir une probable majorité à l'Assemblée, débattue à partir d'aujourd'hui.
Merci Angelina pour ces explications. Un petit changement dans le projet de loi finance, mais qui pourrait avoir de grandes conséquences pour les familles séparées. Et maintenant, un petit retour sur Octobre Rose, un mouvement de prévention de santé louable, mais qui cache une réalité plus complexe. Lise, tu nous en dis plus.
Vous avez dû apercevoir à l'IUT et même dans les autres campus universitaires, des stands tout en rose. C'est en ce moment le mois de la prévention du cancer du sein, autrement nommé Octobre Rose. Une belle initiative à première vue qui souhaite attirer l'attention sur un message central « Dépistez-vous ». Une phrase simple et pourtant qui questionne. Alors, je ne vous dis pas l'ignorer, dans le possible, faites-le et prévenez-vous d'un long combat à venir. Mais justement, voilà un déjà de problème, dans le possible. Car oui, ça n'est pas toujours facile d'accès. Il suffit de penser aux déserts médicaux pour les femmes vivant en ruralité. Sans oublier la violence médicale à laquelle certaines doivent faire face, notamment pour les femmes racisées et les femmes transgenres.
Mais au-delà de ça, pourquoi attendre des personnes qu'elles se fassent dépister ? Est-il un problème ?
Car le cancer du sein devient un problème individuel, avec une solution reposant sur la responsabilité seule de la patiente. Pourtant, comment ignorer les causes structurelles derrière la montée du cancer ? La pollution reste encore beaucoup pointée du doigt. Une étude sortie en octobre 2022 relève l'impact de la qualité de l'air sur le développement du cancer du sein. S'y ajoutent les perturbateurs endocriniens, que l'on retrouve notamment dans les produits de beauté. Une double injonction, incompatible par nature. Sois belle, mais garde un mode de vie sain.
Il s'agit même d'une initiative aux origines commerciales.
Effectivement, l'idée du mois d'octobre rose vient notamment de l'Imperial Chemical Society, un laboratoire pharmaceutique qui comptait profiter des bénéfices financiers derrière les soins nécessaires. Plus de dépistage revient à plus de profit. Et puis, en se penchant sur l'histoire du fameux petit ruban rose que certains ont pu orner en ce début de mois d'octobre, certaines réalités émergent. À l'origine de cette idée, on retrouve Charlotte Halley, une militante américaine qui réclamait des avancées législatives sur la prévention du cancer du sein grâce à un petit ruban couleur pêche. C'est alors qu'en 1992, Evelyn Lauder, vice-présidente de la compagnie de beauté Estée Lauder, et Alexandra Penner, rédactrice en chef du magazine Self, lui proposent une collaboration. La militante refuse, dénonçant une opération commerciale. Ce à quoi les deux femmes se rendent compte de leur erreur, elles renoncent à leur campagne publicitaire et s'engagent aux côtés de Charlotte Halley. Vous y avez cru ? Non, pas du tout. À la place, elles mènent leur projet à bout, sans la créatrice du ruban. Elles en changent simplement la couleur, pour du rose, afin d'éviter les potentielles retombées juridiques. Bref, voilà de quoi donner à réfléchir, en attendant une pensée aux actuelles patientes qui mènent elles aussi un véritable combat.
Merci Lise pour ce petit rappel historique. Malgré ce passé un peu ombragé, n'hésitez pas à vous tourner vers les services de santé universitaires pour un accompagnement dans votre dépistage. Il est 7h25, on va marquer une petite pause musicale avec le titre « Prochaine fois » du rappeur français Ben PLG.
Lumière floue dans le fond de la ville, j'ai la tête sur le bord de la vitre. J'ai plus envie mais je tire une taf, et ça me fait comme le goût de la vie. Et ça me fait comme quand je t'ai pas tout dit, j'ai l'impression que tu te perds mais je suis pas ton daron. Et ton daron t'a aimé en faisant de la merde, c'est normal que ça tourne pas tout rond. On est ce que l'on est, plein de petites histoires pas solutionnées. Plein de voix qui parlent en même temps sous ton gros bonnet. On est ce que l'on est. Ma gueule t'es unique, t'es comme tout le monde. Des nuages tout gris, des cigarettes blondes. J'avais besoin de réfléchir donc j'ai coupé le son. J'ai pas compris ce qui se passait, j'ai remis le son. Je vais couler, je vais toucher le fond. Je me sens bien quand je remonte, on leur laisse le sommet. On leur reprend le sommeil. Je levais la tête éblouie comme si en haut y'a deux soleils. Viens on arrête, on se promène. Viens on arrête de se promettre. Je me sépare toujours de toi en regrettant les moments où je me dis ça je lui dirai une prochaine fois. Je vais crier jusqu'à plus de voix, elle s'est éloignée jusqu'à plus me voir. Je veux tout faire maintenant, parlez-moi plus de la prochaine fois. Je vais crier jusqu'à plus de voix, elle s'est éloignée jusqu'à plus me voir. Je veux tout faire maintenant. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Parlez-moi plus de la prochaine.
Je me sens mal, je vais jusqu'au bout de la ville. Je dis je t'aimerai jusqu'au bout de la vie. Elle m'a dit peut-être, ok. Je reste moi-même, je progresse. Comme dans les niveaux où j'étais bloqué. Vas-y parle, on est réceptif. Le poteau ça fait un mois qu'il est resté clean. Personne essaye de diminuer. Et si jamais il tombe, on sera réceptif. J'ai grandi, j'arrive enfin à pleurer. Il est loin mais il est toujours au fond de moi. Le petit garçon qui parle à peuré, je louperai jamais plus une occasion d'applaudir. À la fin on se rappellera surtout de ton sourire. Je mélange les meilleurs moments avec tes rêves. C'est comme ça qu'on fait un souvenir. Pas facile d'être sûr de toi sans sortir, pas facile d'être sûr de ça. J'ai un pote défoncé qui a déjà fait un trou de poulet sur son chat. Vous aimez pas, bah partez de là. C'est gris mais y'a plus de charme. On fermera nos gueules que quand on aura la preuve que y'a vraiment plus d'espoir. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Parlez-moi plus de la prochaine. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Parlez-moi plus de la prochaine fois. Parlez-moi plus de la prochaine.
C'était Prochaine fois de Ben PLG. Vous êtes bien sur Radio Campus Tours et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'École publique de journalisme de Tours. En Bolivie, après 20 ans de gauche au pouvoir, le responsable politique du centre droit, Rodrigo Paz, a été élu président. Un revirement politique qui inquiète les producteurs traditionnels de coca. Rachel Giraudeau.
Le candidat du Parti chrétien-démocrate s'est imposé face à l'ultralibéral Jorge Quiroga ce dimanche 19 octobre avec 54,6% des voix. Alors que le nouveau président s'est dit favorable à l'aide internationale dans la lutte contre le narcotrafic, les producteurs de coca, communément appelés cocaleros, s'interrogent sur l'avenir de leurs plantations. En effet, si elle est autorisée dans les régions de La Paz et Cochabamba, pour son usage traditionnel par les peuples autochtones, la coca est également la feuille à partir de laquelle on extrait la cocaïne. Avec le retour de la droite au pouvoir, l'anthropologue Andrés Huanca s'attend à une politique similaire à celle de Jaime Paz, le père du nouveau président. Chef de l'État de 1989 à 1993, il avait opté pour l'éradication concertée de la culture de coca avec l'aide des États-Unis.
Les cocaleros craignent donc le retour de la DEA, l'agence américaine antidrogue.
Et oui, puisqu'avant l'expulsion de la DEA par Evo Morales en 2008, les États-Unis menaient une violente guerre contre la drogue sur le territoire bolivien, et ce depuis 1980. Un rapport de l'ONG Human Rights Watch avait révélé en 1995 que l'aide américaine soutenait des programmes entachés de violations des droits humains. Détention prolongée de suspects acquittés, abus policiers ou encore allégations de torture et impunité persistante des agents américains impliqués. Après quasiment deux décennies de tensions diplomatiques entre la Bolivie et les États-Unis, Rodrigo Paz a exprimé sa volonté de rétablir les liens avec Washington afin de mettre fin à nos problèmes de manière immédiate, dit le nouveau président bolivien. Dès mercredi, il s'est entretenu avec le secrétaire d'État Marco Rubio, qui lui a rappelé le soutien des États-Unis dans la lutte contre les organisations criminelles.
Un soutien précieux pour Donald Trump au moment où les tensions s'intensifient avec les autres dirigeants d'Amérique latine.
Tout à fait. Depuis début septembre, Washington multiplie les interventions militaires dans les Caraïbes au prétexte d'une lutte contre le narcotrafic. Bilan, 9 attaques, 37 morts et de fortes tensions diplomatiques avec la Colombie et le Venezuela. Ce jeudi 23 octobre, le président colombien Gustavo Petro a dénoncé des exactions extrajudiciaires commises par les États-Unis. De son côté, Donald Trump n'hésite pas à attaquer frontalement le dirigeant, le qualifiant de « baron de la drogue ».
Des interventions qui font craindre le retour d'une criminalisation des autochtones et de leur culture traditionnelle. Mais le vice-président bolivien, Edman Lara, assure que la production traditionnelle de coca sera respectée. À la suite de la trêve hivernale, où plusieurs personnes se sont retrouvées à la rue, à Tours, plusieurs citoyens se sont associés pour créer la Maison Internationale Populaire, aussi appelée la MIP, un squat anarchiste et autogéré. Là-bas, plusieurs familles y vivent depuis plusieurs mois. Au micro de Lucie, les enfants de la MIP racontent leur quotidien.
Vous habitez ici ?
Oui.
Et c'est comment de vivre ici ? Est-ce que c'est chouette ?
Oui.
Ah, bof ?
Moyen.
Pourquoi ?
Parce que y a des fois le matin et l'eau elle est froide. C'est dur pour se laver le visage. Et des fois quand je veux voir mes devoirs, je peux pas réviser parce qu'il n'y a pas de lumière. quand je vais aux toilettes la nuit, j'ai un peu peur. Et c'était tout sombre. Et après aussi, on avait fait une liste. Et après, peut-être c'est la MIP, elle va acheter. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va leur ramener des trucs. En fait, des fois, c'est les messieurs, ils ramènent qu'est-ce qu'ils trouvent. Dans la liste qui était écrite, il y avait deux tentes. Parce qu'une pour nous, pour les filles, et une pour les garçons. Parce que des fois, les garçons, ils nous embêtent. Et des tyroliennes, des toboggans, des balançoires. Aussi, on avait piège à rats. Parce qu'il y a plein de rats ici. Et avant, il y avait un rat, il avait mordu un papa. Des fois, dans notre cabane, là-bas, on joue avec des feuilles parce qu'on a nos affaires là, dans ma chambre. Et des fois, on joue à la maîtresse à côté de la salle de jeu.
J'aime bien quand je joue bien. Et la MIP, c'est trop bien parce qu'en haut, le premier étage, elle a des livres, plein de trucs. Et en fait, aussi là-bas, on peut faire la boxe. Et j'aime bien trop la MIP. Et je joue toujours à la chambre, dehors, avec mes copines. Et bah, on dessine, on joue aux maîtresses.
Afin de se préparer à l'hiver, la MIP organise actuellement une collecte de dons. Rendez-vous donc sur leur cagnotte Litchi ou au 178 rue Walvein. Lundi, l'équipe marocaine des moins de 20 ans a été sacrée pour la première fois de son histoire de championne du monde. Un succès retentissant qui dépasse largement le cadre sportif. Youen Rollin nous éclaire sur ce triomphe qui marque l'histoire du football africain et qui résonne au cœur d'une société marocaine en quête de renouveau.
Oui Clara, ces dernières semaines ont été particulièrement riches en émotions pour les jeunes footballeurs marocains. Sorti premier du groupe de la mort devant le Mexique, l'Espagne et le Brésil, puis après avoir éliminé les Bleuets de Bernard Diomède en demi-finale, les Lionceaux de l'Atlas ont créé la surprise en s'imposant 2-0 en finale face au jeune Argentin, déjà septuple champion du monde dans cette compétition. Un exploit historique puisque le Maroc remporte cette compétition pour la première fois de son histoire.
Le Maroc a d'ailleurs déjà fait vibrer la planète football il y a quelques années.
En effet Clara, en décembre 2022, le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Portée par des joueurs de classe mondiale comme Achraf Hakimi, Youssef El Nissiri ou encore Yacine Bounou, les Marocains avaient déjà pu montrer leur capacité à rivaliser avec les plus grands.
Un projet sportif mais aussi politique et social, n'est-ce pas Youn ?
Oui, tout cela n'est pas arrivé par hasard. Il résulte d'un travail de longue haleine mené par la Fédération royale marocaine de football depuis plus de 15 ans. Le roi Mohamed VI lui-même l'avait affirmé lors des assises du sport à Skirat en 2008, je cite « Nous avons pleinement confiance dans le grand potentiel du sport marocain. Nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir toutes les bonnes initiatives afin de faire du sport un modèle exemplaire, un facteur de cohésion sociale et de rayonnement international. » Ce mercredi, à peine remis de leurs émotions, les jeunes joueurs marocains ont été reçus au Palais Royal, avant de partir pour une parade exceptionnelle dans les rues de Rabat, la capitale marocaine. Traversé par de nombreuses manifestations menées par la génération Z, le Maroc voit dans cette victoire un véritable bol d'air frais, un moment d'unité et d'espoir pour une jeunesse en quête de changement.
Cap désormais sur la Coupe du Monde 2026, où certains de ces jeunes, à l'instar de Yacine Khalifi ou encore Jessim Yacine, pourraient bien décrocher leur place après avoir brillé chez les moins de 20 ans. Il est 7h36, vous écoutez Good Morning Tour sur 99.5 FM. On se retrouve juste après une petite pause musicale avec le titre « Au fond de nous-mêmes » de Amandine et Nola.
Tu sais, j'ai fait semblant parfois de ne plus penser à toi. Y'a tout qui me revient dans la gueule au dépens de mes choix. Je voudrais croiser les doigts pour plus rien ni même ton audace ne s'immisce au fond de moi.
Tu sais, c'est pas toujours évident. Si je pouvais faire autrement, y'a tout qui me revient dans la gueule au dépens de mes choix. Faudra sûrement du temps.
qui nous font de la peine et qu'on n'oublie jamais, à celles qu'on garde en secret, tout au fond de nous-mêmes. J'ai pas dû trouver ce qu'il me faut, j'ai peut-être tout gâché, en vouloir un peu trop, j'ai pas su trouver.
D'écouter Au fond de nous-mêmes de Amandine et Nola. Nous sommes toujours dans l'émission Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Place maintenant à un peu de sport avec Antoine Camara. La saison régulière de NBA, la célèbre ligue professionnelle de basketball aux États-Unis, a marqué son coup d'envoi dans la nuit de mardi à mercredi dernier. L'opening night s'est déroulé dans la conférence Ouest avec deux premières confrontations et le traditionnel match d'ouverture chez l'équipe du champion en titre.
C'est dans leur salle du Paycom Center que les joueurs du Thunder d'Oklahoma City, vainqueurs des finales NBA 2025, ont accueilli l'équipe des Houston Rockets. Une première confrontation qui s'est achevée au bout de deux prolongations par une victoire du Thunder 125 à 124. Auteur de 35 points, Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison 2024-2025, a porté son équipe d'Oklahoma City en inscrivant deux lancers francs décisifs pour remporter la rencontre. Le deuxième match de la soirée avait lieu dans la Crypto.com Arena de Los Angeles. L'équipe locale, les Lakers, a dû composer sans son joueur star LeBron James, blessé au dos, pour affronter les Golden State Warriors. Malgré les 43 points, 9 passes décisives et 12 rebonds de Luka Doncic, les Angelinos ont perdu 119 à 109 face aux coéquipiers de Stephen Curry et Jimmy Butler, respectivement auteurs de 23 et 31 points.
24 autres équipes NBA ont entamé leur saison dans la nuit de mercredi à jeudi. Au cours de cette soirée, le français Victor Wembanyama a débuté sa troisième saison NBA sur les chapeaux de roue avec un match monumental de 42 points, 15 rebonds et 3 contres. Antoine Cara, il est 7h40, tout de suite le flash info de Ludivine Meyer.
Le dernier jour d'audience s'ouvre ce vendredi au procès du meurtre de Lola, violée et tuée il y a 3 ans. Hier, les avocats des parties civiles ont retracé le calvaire de la collégienne. L'accusée Dabia Benkired reconnaît presque tous les faits sauf les pénétrations qu'elle persiste à nier malgré les expertises. L'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises de Paris rendra son verdict dans la journée. Ce matin, 26 départements sont en vigilance pluie, inondation, crue ou les deux à cause de la tempête Benjamin. Elle a frappé hier partout en France, faisant un mort et plusieurs blessés. Avec des rafales enregistrées à plus de 160 km/h, la majorité du pays a subi un violent coup de vent, avec notamment une mer déchaînée sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche. Un touriste allemand de 45 ans est mort en Corse, emporté par une crue. 6 autres personnes ont été blessées plus légèrement. Jusqu'à 140 000 foyers ont été coupés d'électricité, en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Total Energy condamné pour greenwashing. Le tribunal de Paris a partiellement condamné Total Energy hier pour pratiques commerciales trompeuses liées à sa communication sur la neutralité carbone. Saisie en 2022 par plusieurs ONG, dont Greenpeace, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à tous, la justice a jugé que certaines déclarations du groupe étaient susceptibles d'altérer le comportement d'achat du consommateur et de l'induire en erreur. Un jugement inédit car pour la première fois, une compagnie pétrolière a été jugée pour greenwashing, une pratique marketing qui consiste à faire passer une entreprise ou ses produits comme étant plus écologistes qu'ils ne le sont réellement. Barcelone, l'Alpe d'Huez et Montmartre au programme du Tour de France 2026. Le temps attendu parcours de l'édition à venir de la Grande Boucle a été présenté hier. Il débutera le 4 juillet 2026 au départ des étapes vallonnées en Catalogne puis dans les Pyrénées. Et pour la deuxième année de suite, les coureurs retrouveront la butte Montmartre. L'étape finale aura lieu le 26 juillet 2026 dans les rues de la capitale jusqu'aux Champs-Élysées.
C'était le Flash Info présenté par Ludivine. Place maintenant à un peu de légèreté. on l'a appris cette semaine, le tournoi de foot inter-école de journalisme 2026 se déroulera lors du premier week-end de mars. Pour les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours, la préparation s'intensifie, les matchs continuent. Jules Frécon s'est rendu à la dernière rencontre de l'équipe féminine. Une défaite pour les joueuses, mais ça n'a pas empêché les supporters de l'école de donner de la voix.
Oui, bonjour, je suis Colin de Brognac, je suis en Master 2 de journalisme à l'EPJT. Et là, on est ici ce soir avec toute une team pour venir supporter les joueuses de l'EPJT FC, les joueuses féminines, pour leur deuxième match de l'année. Donc là, on peut le voir, on a fait une pancarte très très belle. Il s'est marqué EPJT va win, un petit calembour, une petite référence à notre chant fétiche. Et là, je vais pouvoir ajouter quelques petits ajouts graphiques, comme un petit cœur pour encourager nos joueuses. C'est beau.
Et attention, le match va commencer. Nous avons une équipe féminine au top du top.
Ouais, les filles, allez. Ouais, allez le PJT.
Moi, c'est Clara, je suis étudiante en journalisme à l'École publique de journalisme de Tours et membre du Pôle Ultra ce soir. Je suis venue encourager l'équipe féminine de l'EPJT. Avec tous mes camarades qui sont venus nombreux.
C'est quoi le rôle d'un pôle ultra quand on est une équipe de cette envergure-là ?
Et bah, le rôle d'un pôle ultra est très important parce que c'est hyper important que l'équipe se sente très soutenue tout au long du match, qu'on soit là pour crier à chaque but, à chaque déception, on est là pour les encourager, les relever, pour que l'équipe aille jusqu'au bout du match, et ça c'est le plus important.
La 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 la.
De se passer là, Colin.
Malheureusement, premier but de l'équipe adverse, elle commence à ouvrir le score, mais c'est pas perdu, on garde espoir.
Allez,
Mathilde, c'est la première fois que vous venez supporter ?
Non, je commence à avoir une petite habitude, mais là je suis très très contente d'être là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, donc ça fait plaisir de faire partie d'un tel groupe de supporters.
Et là, la pancarte, c'est vous qui l'avez faite ?
Alors non, moi j'ai juste repassé les lettres pour que ça soit un petit peu plus épais, pour qu'on voit de loin. EPJT. Le nom de l'école et de l'équipe, donc. Et EPJT va win, donc il peut se traduire par le PJT va gagner.
D'accord, merci pour la traduction. Et est-ce que le PJT va win ce soir ?
Je pense.
Parce que là, pour l'instant, elle perd.
Oui, mais on est au début. On est au début du match. Tout peut encore se retourner. Et j'espère.
Qui pourrait mettre un but ?
Tout le monde. Tout le monde est capable de faire ça. Sauf Julie, qui est au but elle-même. Donc là, j'avoue que ça m'impressionnerait beaucoup. Quand même.
Oui, Julie, oui !
Bah elle a marqué, mais contre son but, contre son camp. Donc là,
c'est Julie qui vient de marquer là, c'est ça ?
Oui, je ne vous fiez plus jamais à ce que je dis. Voilà.
Mais j'ai pas compris. J'ai pas.
Elle a voulu attraper et elle a pas réussi et le ballon s'est doucement dirigé dans la cage.
C'est à la mi-temps, donc c'est à la mi-temps, je crois.
C'est maintenant.
En fait, je sais pas s'il y aura un truc après, mais canette. Canette chips ou juste canette ? Canette d'abord. Peut-être juste après. Canette.
Vas-y.
Ah, ben toi, tu veux canette ?
Ouais.
Bah, bon, canette.
Je peux en avoir une gorgée avant de.
Non, repartir. Tu joues là-bas. Je joue.
Je jure, ça va m'apporter un tonus, je pense.
L'alcoolique.
On n'est pas venu jouer, on est venu marquer l'histoire.
Non,
si on doute, on perd. Si on y croit, on gagne. Ne doutez pas. Pas besoin de crampons en or pour briller. Juste courir plus vite que la gueule du coach. ChatGPT.
Attention avec la numéro 12 qui s'élance face au gardien. La numéro 6, c'est la numéro 12 encore. Mais attention, il y a un beau pressing. C'est oh là 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 là. Le tampon. Assassin. Antoine Carré, une nouvelle recrue qui vient d'arriver à l'EPJT-FC. Maureen Décor, qu'est-ce que vous en pensez ?
Elle a un gros passif de pilier de barre au PMU notamment.
Perte aussi de maillot, c'est ça ? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure ?
Effectivement, si le PJT-FC est en liquidation judiciaire, elle n'est pas étrangère en tout cas à cette situation. Merci. Et niveau football, c'est pas ça. Hein.
Ah ouais, non, là, on est loin des standards qu'on attend lors de ce match. Hein. Maureen Décor qui, pour l'instant, s'apprête. Attention, oh, le magnifique tir, le poteau. Oh, c'était une super action. Heureusement que Manola est dans les parages pour dégager.
Bourguet, vous verrez sinon. J'en boirai des canons et des canons dans toute la Touraine. EPJT, je t'aime. Bourguet, vous verrez sinon. J'en boirai des canons et des canons dans toute la Touraine. EPJT, je t'aime.
Magnifique, court mais intense.
Non, je me suis beaucoup entraînée pour ça.
Bravo. Louise, c'était quoi la musique que t'avais? Tu as fait une musique super, une reprise de Gims, version EPJT.
Oui, c'est Tourangelle de Gims.
Ok, tu peux nous la faire?
Ouais. Moi, je veux une Tourangelle, Tourangelle qui traîne à la guinguette, qui n'a pas peur de faire la fête. Moi, je veux une Tourangelle, Tourangelle qui aime les châteaux et qui adore Dario.
Ouais! Tu fais ça, tu veux mégaphone? On aura peut-être perdu, mais on aura une belle musique. En tout cas, merci Louise.
Moi, je veux une Tourangelle. Une Tourangelle qui traîne à la guinguette, qui n'a pas peur de la fête. Une Tourangelle. Une Tourangelle qui adore les châteaux et qui adore Dario.
Ouais, ouais.
Ça répond pas, mec. Vas-y, mets dans le...
Je rappelle que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. C'était un reportage de Jules Frécon en immersion avec le pôle ultra de l'EPJT. Décidément, merci à lui. Et on embrasse tous les supporters et aussi les joueuses de l'équipe féminine de l'EPJT FC. Il est 7h49, le temps d'une pause musicale. Nous écouterons Ben Majoué avec son titre « 10 ans de nous ».
Ça doit être la 700 000e fois que je te vois t'habiller, choisir cette culotte ou celle-là, que je te vois t'abîmer. On n'a pas vraiment vieilli parce qu'on se sent capable de tout encore, mais on a gagné quelques plis sur le corps. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. On se l'est tellement dit que ce serait pour longtemps, que finalement 10 piges ça paraît pas tant. C'est pas si épatant, ça rafraîchit l'odyssée, même si l'on contemple plus que l'on agit. Puisque l'on réussit, on essaie, on essaie. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Mais si à l'avenir on passe à côté, si on n'exige pas au moins aussi bien que ce qui vient de se passer, moi j'ai encore nos débuts en mémoire, nos espoirs, et je rougis pas de ce qu'on est devenu. 2 enfants plus tard, j'attends de nous tout, 10 ans.
douceur de souffrance, de coups de peur, de tourment, de loups et de tournants, des souffleurs de crise et des bonheurs qui se brisent. Mais qu'on s'est ranimé, ce sera ça aimer. Pour nous, c'est ça.
Ben.
Vous venez d'entendre le titre de Ben Mazué, 10 ans de nous, et vous êtes toujours sur Radio Campus Tours au 99.5 FM, et nous entrons dans la dernière partie de notre émission. La pop culture s'apprête à perdre d'ici la fin de l'année l'un de ses bastions historiques. MTV a en effet annoncé il y a quelques jours la disparition de 5 déclinaisons de sa chaîne musicale au Royaume-Uni et en Europe, dont la version française. Selon la BBC, seul MTV HD continuerait d'être diffusé, désormais centré sur ses programmes de télé-réalité. Une annonce qui a fait vaciller les fondations même de l'industrie musicale. Alia ?
En effet, Clara, après 44 ans de bons et loyaux services, en 2026, la télévision dira adieu à MTV, autrement appelée Music Television, ou encore la première chaîne télévisée de clips musicaux en continu. Un phénomène né aux États-Unis qui n'a pas tardé à traverser l'Atlantique. La chaîne s'installe en Europe en 1987, d'abord au Royaume-Uni, puis en France en 1988. Très vite, elle devient un canal incontournable et son histoire commence avec un titre devenu culte, Video Killed the Radio Star des Buggles. Pour la chaîne, l'ambition est assumée, la musique ne doit plus se contenter des ondes radiophoniques, maintenant l'image doit rejoindre l'expérience.
Et c'est justement le début d'une révolution culturelle.
Complètement, Clara, les clips ne sont plus de simples bonus, une cerise sur le gâteau, mais de véritables outils promotionnels pour les artistes, avec des chorés toujours plus poussés. Du mythique Thriller de Michael Jackson diffusé pour la première fois sur MTV en 1983. À l'incontournable Toxic de Britney Spears, sorti en 2003. Ces vidéos mettent en scène, parfois dérangent, et le clip en lui-même devient finalement tout un art. David Fincher, multiple oscarisé, a d'ailleurs débuté sur la chaîne en y réalisant le clip Vogue de Madonna.
Mais alors, pourquoi dire au revoir à cette chaîne pionnière ?
Déjà à cause de l'arrivée de YouTube en 2005, la plateforme en ligne ne fait pas de sélection, tous les artistes sont logés à la même enseigne, et ça, ça fout un premier coup à la chaîne. Puis l'arrivée de Spotify l'année suivante n'a rien arrangé, le marché de la musique se retrouve déréglé, les clips continuent de faire du clic, certes, mais ils n'atteignent plus la même effervescence qu'à leurs grandes heures. Le dernier coup de massue fut l'apparition des plateformes type TikTok, les publics à conquérir sont changeants, et ça, Paramount, la maison mère de MTV, le sait. Alors pour eux, il vaut mieux savoir tirer sa révérence à temps en investissant justement à l'ère de son temps.
Une décision qui s'inscrit aussi dans un plan économique de 500 millions de dollars que Paramount entend investir dans des formats mieux adaptés à la jeunesse de demain. Retournons maintenant dans l'Hexagone. Andrés, Lyon a accueilli la grande messe de l'industrie du cinéma lors de son prestigieux Festival Lumière. Un incontournable pour tous les passionnés du grand écran. Entre séances spéciales, rencontres et tapis rouges, de grands noms se sont retrouvés pour célébrer l'histoire du film et son avenir.
Du 11 au 19 octobre, Lyon a accueilli, comme à son habitude, le prestigieux Festival de cinéma Lumière. Prenant place au cœur de l'Institut Lumière, lieu mythique dans l'histoire du 7e art, l'événement présidé par Thierry Frémaux a accueilli plusieurs réalisateurs de renom et autres diffusions exceptionnelles de films. Lors de la cérémonie d'ouverture, le réalisateur Scott Cooper et son acteur Jeremy Allen White, notamment connus pour les séries Shameless et The Bear, ont ouvert les festivités avec la diffusion anticipée de Springsteen Deliver Me From Nowhere, biopic sur celui qu'on appelle The Boss, Bruce Springsteen. Au rythme de rétrospectives et de conférences masterclass, la ville hôte des Frères Lumière, inventeurs du cinématographe, ont accueilli plusieurs grands noms de la profession, comme Sean Penn, Nathalie Portman, Rebecca Zlotowski ou encore le réalisateur acclamé John Woo. Seulement, comme chaque année, les aficionados et le public du festival centraient leur attention sur une seule chose, le prix de Lumière. Cette année, la récompense a été attribuée au réalisateur américain Michael Mann, notamment connu pour le cultissime Heat, film d'action marquant la première rencontre directe entre deux mastodontes du cinéma, Robert De Niro et Al Pacino. Le cinéaste américain succède ainsi à Tim Burton en 2022, à Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Quentin Tarantino et même Isabelle Huppert qui lui a d'ailleurs remis le prix sur scène la semaine passée. Auréolé pour l'ensemble de son œuvre dans la grande salle de la comédie, Mann est monté sur scène et s'est remémoré sa vie lors d'une conférence de 2 heures. Une nuit glaciale du Wisconsin, en sortant d'une projection de film muet, j'ai eu la révélation. C'était comme si le ciel s'ouvrait et qu'une main géante descendait vers moi pour me dire « Tu feras des films », raconte le réalisateur comme le rapporte le magazine Première. Déroulant sa filmographie riche en constante alternance, de Miami Vice à Ali en passant par Collateral et plus récemment son biopic d'Enzo Ferrari avec Adam Driver dans le rôle titre, il marque par sa manière d'aborder le réel sous un prisme sensoriel et physique. Une dynamique qu'on perçoit d'ailleurs à son prime dans la fameuse scène du braquage de Heat où le travail titanesque du son a été salué par la critique et a inspiré la scène d'intro du Dark Knight d'un certain Christopher Nolan. À 82 ans, Michael Mann n'a rien perdu de sa flamme, il n'en reste pas moins penaud. Pas du tout, il prépare déjà la suite de son film culte Heat, soutenu par Leonardo DiCaprio et Adam Driver, dont le tournage est prévu pour 2026 sous l'égide d'Amazon MGM Studios. Lyon l'a célébré, le cinéma continue de l'inspirer, et comme il le dit lui-même, le ciel s'est ouvert pour lui un soir et ne s'est jamais refermé.
Merci Andrés. Le festival Lumière s'est terminé pour cette année. On a hâte de suivre la 18e édition en 2026 et de connaître le ou la future lauréate de ce que Thierry Frémaux entend imposer comme le prix Nobel du cinéma. Il est 7h59, vous écoutez Good Morning Tour sur 99.5 FM. Mais la culture, c'est aussi près de chez vous. Avant de nous dire au revoir, sortez vos agendas, nous allons faire le point sur les sorties du week-end. Envie de prendre un peu de hauteur ce week-end ? Direction la Tour Charlemagne, en plein centre-ville de Tours. Une visite guidée est prévue ce samedi de 15h à 16h sur inscription. Tous les tarifs et infos pratiques sont à retrouver sur le site de la ville. Et tant que vous êtes dans le coin, ne manquez pas le MUMO, le musée mobile du centre Pompidou. Le camion-musée pose ses bagages à Tours pour une semaine avec l'exposition En Voyage, imaginée par Annalisa Rimodo. Des ateliers gratuits sont proposés ce samedi de 16h30 à 18h à la bibliothèque des Rives de Cher, arrêt Suzanne Valadon. Un peu de sport maintenant. Le Tour Roller Derby se met lui aussi aux couleurs d'Octobre Rose avec l'événement Derby en Rose. Des matchs tout le week-end, des entrées à prix libre et surtout une belle cause. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Tourangelle au sein des femmes engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Et enfin, n'oublions pas d'aller chiner pour finir ce week-end, le dimanche matin dès 8h avec la brocante boulevard Heurteloup, l'occasion de faire de bonnes affaires. Côté météo, Météo France annonce un temps froid et venteux. Alors si vous préférez rester bien au chaud sous la couette, j'ai ce qu'il vous faut. Un livre à dévorer et une série à binge-watcher, ce week-end. Côté lecture, je vous recommande « Désenchanté » de Marie Vareille, direction Bouville-sur-Mer, un petit village du nord de la France où une adolescente a disparu il y a 15 ans. Fanny Courtin, journaliste et sœur de la meilleure amie de la victime, revient sur place pour écrire un article. Entre secrets, blessures et sororité, l'enquête nous embarque dans une histoire poignante, pleine d'émotions et d'humanité. Un 5 étoiles dans mon carnet, une écriture fluide, touchante et un roman que j'ai littéralement dévoré du début à la fin. À noter, le livre est disponible dans les bibliothèques de la ville, gratuite pour les étudiants, profitez-en. Et si vous êtes plutôt écran que papier, la série Surface pourrait bien vous plaire. Une policière débarque dans un petit village nommé Avalon pour inspecter le commissariat local. Mais elle va très vite découvrir que ce lieu est chargé d'histoire avec l'existence d'une partie basse engloutie après la construction d'un barrage. Mais très vite, des fûts vont monter du fond du lac avec à l'intérieur des corps d'enfants disparus depuis 23 ans. Une ambiance sombre, allaitante, sans grande surprise sur la fin, mais une tension qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Les 6 épisodes de 50 minutes sont à retrouver gratuitement sur la plateforme France Télévisions. Et voilà de quoi vous occuper votre week-end. Il est 8h02, vous écoutez bien Good Morning Tour au 99.5 FM et donnons maintenant le micro à Angelina Richard. « Pour beaucoup d'étudiants, les études les poussent à quitter leur ville natale, à prendre un appartement. Mais ce passage à l'adulte et à l'heure des responsabilités n'est pas toujours simple. Angelina, tu pars justement en alternance chez tes parents et tu voulais nous faire part de tes questionnements.
Je regarde mon téléphone, notification Snap du groupe Babylone. Rendez-vous ce soir, 21h, place Plume. J'enfile ma veste, mon foulard, enjambe mon vélo, regarde le temps de route, 3h45. Je regarde autour de moi, mais je ne reconnais pas. À la place de mon vélo, ma voiture et de mon 15 mètres carrés, une maison avec une cuisine qui n'est pas dans ma chambre. Je suis pourtant à l'endroit où j'ai vécu pendant 18 ans, mais c'est comme si tout avait changé, comme si mon chez-moi n'était plus. Je troque mes amis pour ma mamie et place Plume contre mon lit. Mais c'est ça aussi grandir, je crois, se construire un nouveau chez-soi. Mais j'ai toujours pensé que c'était lié à l'endroit où j'ai grandi. Mais plus je grandis, justement, et plus je me rends compte que, bah, pas tellement. Je crois que chez moi, c'est plutôt lié aux personnes. Vous savez, celles qui vous font rire. Ces personnes dont la simple présence suffit à se sentir bien. Ces personnes qui vous connaissent mieux que n'importe qui et qui vous offrent des boutons de couture à votre effigie. J'ai d'ailleurs appris un nouveau mot, la FOMO. En gros, c'est quand t'as le seum et que tu t'en veux car t'es pas là où tes amis sont. Et cette FOMO, je la ressens déjà alors que je suis même pas encore partie. Pourtant, la plupart de mes amis sont loin et m'écoutent de Rennes, Paris ou encore Lyon. Et une partie de moi reste avec eux à chaque fois que je les vois. Alors comment faire lorsque notre valise, on la pose dans des villes différentes à chaque fois tous les deux ans? Est-ce que je vais finir en 1000 morceaux, éparpillés dans toute la France? En vrai, j'ai pas la réponse, et il me reste encore 48 heures avant que mon train arrive en gare. En attendant, je sors la carte alternance, celle qui me permet de profiter sans culpabiliser, et qui me fera bouger ce soir dans le centre de Tours, entourée des gens que j'aime. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Loin des yeux, mais près du cœur, c'est ça?
Je crois que oui, c'est ça. Merci Angelina de nous être t'être confiée. Il est 8h04 et c'est la fin de cette matinale. Merci aux auditeurs d'avoir passé cette heure avec nous et merci à ceux qui ont participé. Lise Oshkorn, Youn Rollin, Rachel Giraudot, Ludivine Meyer, Andrés Godefroy, Jules Frécon, Antoine Camara. On n'oublie surtout pas Mathis Maudet qui s'est levé tôt et a assuré la technique. Mais aussi nos alternantes, Alia Trabelsi qui s'envole en Alsace, Angelina Richard qui retrouve les plages vendéennes et Lucie Feuillet qui retrouve sa Normandie natale. Vous allez nous manquer, vous le savez, mais on se revoit très vite dans les pages de Ouest France ou sur les ondes de RCF Vendée ou RCF Alsace. Et qui sait, peut-être qu'on se retroisera pour boire un verre à Caen, au bord de la mer ou autour d'un bretzel sur les marchés de Noël alsaciens. Quant à nous, on ne se retrouve pas vendredi prochain puisque c'est les vacances, mais on se dit à dans deux semaines, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.